Et oui, c'est la cloche qui retentit là-bas. Vous la vivez tous les jours en direct. Cette ouverture des marchés américains, la bête s'éveille. C'est New York qui est en train d'ouvrir. La cloche qui retentit, c'est son premier rugissement. Il est là, John Plassard pour Cité Gestion. Bonjour John, ravi de vous retrouver.
Bonjour cher Guillaume, bonjour Antoine.
Il est là aussi effectivement Antoine Larigauderie en fil rouge. Re-bonjour Antoine.
Bonjour Guillaume, bonjour John.
Fil rouge de l'émission, mais de l'antenne aussi ce matin, 11h midi, tout pour investir, d'ores et déjà en ligne et en replay.
Oui, avec une grande question, qu'est-ce qu'une bonne gestion sans stratégie? Si on n'a pas de stratégie, il n'y a rien, et même les meilleurs produits peuvent devenir des boulets au pied. Et effectivement, c'est l'arc d'ogive hein, de vos investissements. On en a parlé beaucoup avec Marion Chapelle-Massot, hein, de la société De Carion. C'est à retrouver, évidemment, en replay, en podcast, tout le week-end, bien sûr.
On regardera Nvidia, évidemment, dans un instant, qui est en train d'ouvrir aussi. Et puis alors, il n'y a pas qu'Nvidia, et comme on va beaucoup parler de tech, de SpaceX aussi, bien sûr, qui a déposé ce dossier d'introduction. On a choisi d'ouvrir sur autre chose ensemble, John, sur les consommateurs. Comment vont les Américains? Walmart, c'est un vrai baromètre de la consommation. Walmart, $1 de course alimentaire sur 5 est dépensé chez Walmart aux États-Unis. C'est colossal. Eh bien, Walmart vient de publier ses résultats.
Bah, écoutez, les résultats sont solides. Hein. On a une hausse de 4,1% des ventes comparables aux États-Unis. Vous savez que Walmart, c'est quasiment seulement aux États-Unis. Et puis, une progression assez spectaculaire de 26% du e-commerce. Mais attention, et ça explique peut-être pourquoi le titre est en baisse à l'ouverture, vous avez un groupe qui confirme une tendance qui est très importante. Les consommateurs américains cherchent de plus en plus les produits alimentaires les moins chers et les promotions. Donc, on voit aujourd'hui que cette fameuse inflation dont on parle depuis plusieurs mois, ben elle met la pression sur le pouvoir d'achat américain. Et il faut savoir que Walmart, c'est le véritable thermomètre du consommateur américain, ça touche absolument toutes les catégories sociales, mais aujourd'hui, il y a vraiment une fracture. Vous avez les ménages les plus aisés, je vais y arriver, qui continuent à consommer, mais la middle class aux États-Unis, eh bien, consomme moins. Et ça, évidemment, ça a un impact sur les marges. On voit que les Américains, c'est ce qu'on craignait, qui, eux, dépensent plus à la pompe parce que les prix de l'essence ont progressé aux États-Unis, eh bien, dépensent un petit peu moins chez Walmart. Donc, Walmart est obligé de réduire ses marges et ils expliquent clairement qu'ils ont absorbé une grande partie de la hausse des coûts énergétiques et du carburant. Donc, les marges sont en train de baisser et on est dans une situation où le consommateur américain consomme toujours, mais de manière un peu différente.
Et Walmart, du coup, sanctionné, hein, obligé de faire des efforts, effectivement, pour garder les consommateurs. Walmart perd 5% là, à l'ouverture de Wall Street après sa publication. Du coup, Wall Street est pas terrible. C'est l'ouverture après 3 minutes de cotation. Que font les indices, là, Antoine ?
Ben, c'est plutôt en baisse. On est à l'unisson de la tendance sur les marchés européens. Moins 0,49% pour le Nasdaq, moins 0,47% pour le Dow Jones, moins 0,45% pour le S&P 500. La volatilité qui remonte un petit peu, mais enfin qui reste relativement modérée à 17,7%. Le CAC 40 lui baisse de 0,6% à 8068.
On voulait vraiment ouvrir sur les consommateurs américains parce que pour le reste, c'est que de la tech, la tuerie américaine du jour. Alors on plonge ensemble. D'abord la publication d'NVIDIA, John. C'était hier soir, superbe publication. Le titre NVIDIA est en petite hausse là, l'ouverture, plus 0,5%.
Extraordinaire, hein, il n'y a pas d'autre mot. Hein, ils écrasent encore les attentes avec un chiffre d'affaires trimestriel, pas annuel, trimestriel de près de 82 milliards de dollars. C'est plus 85% sur une année. Ils ont des revenus des data centers qui sont environ de 75 milliards de dollars. C'est plus 92% par rapport à l'année passée. Et surtout, un free cash flow colossal de près de 50 milliards de dollars en un trimestre. Donc, la société est en train de devenir progressivement une des plus puissantes machines à cash de toute l'histoire technologique. Il y a un point qui reste encore plus impressionnant et on en a parlé hier, c'est les fameuses marges. Hein. Eh bien, ils maintiennent leur marge à environ 75% pour la marge brute, malgré tous les coûts qui sont liés à la nouvelle architecture Blackwell et puis à l'explosion de la demande mondiale des puces d'intelligence artificielle. Perspective aussi extrêmement solide avec environ 91 milliards de dollars de revenus attendus pour le trimestre en cours, c'est-à-dire le deuxième trimestre. Des rachats d'actions 80 milliards de dollars et aussi un dividende qui est remonté. Le petit bémol, il y en a un. C'est les stocks qui sont en train de remonter et normalement, historiquement, lorsque les stocks remontent, c'est un signal de prudence dans les semi-conducteurs. Alors, Nvidia l'explique hein, parce qu'on lui pose la question et ils disent non, c'est pour répondre à la demande future, c'est pour ça qu'on est en train de faire des stocks. Mais on est en train de valider avec les résultats de Nvidia, qui est la dernière grande société tech à publier sur ce premier trimestre, qu'on n'est définitivement pas dans une bulle de l'AI, mais dans quelque chose qui est palpable, j'allais dire.
Ce titre Nvidia gagne même 1,5% là, à la hausse. Ça n'empêche pas le Nasdaq de reculer. Hein. Il y a deux ans encore, c'était Nvidia qui faisait la loi. On voit qu'il est le plus seul hein, sur le Nasdaq, puisque alors qu'Nvidia gagne du terrain aujourd'hui, au contraire, le Nasdaq recule de 0,38%. Et alors, on regardait la performance d'Nvidia sur 10 ans. Le titre sur 10 ans a pris 20 000%. Le titre sur 10 ans a pris 20 000%. Voilà. Wall Street est en petite baisse. On attend bientôt SpaceX qui va aborder les marchés, aussi accoster sur la rive des marchés actions, parce que ça y est, SpaceX entre dans le dur. Ils ont déposé SpaceX hier leur projet d'IPO auprès de la SEC. Est-ce qu'il y a des surprises dans le format que prévoit SpaceX ?
Oui, alors on va pas revenir sur la valorisation entre 1500 et 2000 milliards de dollars. Le ticker, ce sera SPCX, mais il y a des surprises. La première surprise, c'est que SpaceX reste encore massivement déficitaire, malgré son statut de géant mondial. Ils ont, en 2025, environ 19 milliards de revenus, pour près de 5 milliards de pertes net. La deuxième surprise, c'est que le véritable moteur du groupe, c'est pas les fusées, mais c'est Starlink. L'activité Internet satellitaire génère aujourd'hui plus de 11 milliards de dollars de revenus annuels avec 10 millions d'abonnés dans plus de 160 pays, donc c'est absolument extraordinaire. Et on a, alors ça c'est pour nous faire rêver, vous savez que Elon Musk veut absolument nous faire rêver, il nous démontre que SpaceX n'est pas simplement une société spatiale, mais c'est une énorme plateforme technologique qui combine les satellites, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, le cloud spatial et puis la puissance de calcul. Et même si vous regardez le prospectus que j'ai lu en partie, eh bien, il est explicitement nommé qu'il y a la création d'un marché de 1000 milliards de dollars sur la Lune, sur Mars et au-delà. C'est marqué. Et donc, on imagine que c'est vraiment la conquête spatiale, hein, ce dont les Américains et puis nous aussi en Europe, dont on rêve, mais effectivement, aujourd'hui, ça écrase tout, mais c'est pas pour ça qu'on sait exactement si la société sera bien valorisée ou pas, parce que il y a tellement de choses dedans et aussi que ce soit l'intelligence artificielle, les satellites, etc. Mais très difficile de dire aujourd'hui s'il faut acheter l'IPO le 12 juin, si la date est officiellement le 12 juin, parce que c'est difficile de comparer cette entreprise avec une autre.
Oui, mais on voit que effectivement, ce sont des pertes encore aujourd'hui SpaceX au premier trimestre, hein, des pertes de 4 millions de dollars. Alors un auditeur Max nous a écrit sur le Félix BFM Bourse en nous disant il n'y aura pas de bénéfice par action puisque ce sont des pertes par action qui attendent les investisseurs. Et il nous dit, Max, SpaceX qui perd de l'argent, ce titre va attirer tous les pigeons. Grâce à SpaceX, le pigeon apprendra à voler dans l'espace. C'est une façon de dire, il faut éviter, enfin, on a des doutes, on ne sait pas, peut-être qu'il faut y aller dans cette fusée SpaceX en bourse, mais on voit qu'il n'y a pas de bénéfice. Du coup, est-ce qu'il vaut mieux éviter de faire partie de ceux que cet auditeur qualifie de pigeon en l'occurrence, John?
Non, alors j'irai pas jusqu'à là. Vous savez que ces entreprises, quelles qu'elles soient, ils investissent massivement hein, dans Starlink, dans les infrastructures d'intelligence artificielle, dans les data centers, et puis le développement extrêmement coûteux de Starship. Donc, en fait, en achetant SpaceX, on parie sur l'avenir. Alors, avenir qui est rose ou pas, mais on parie sur l'avenir. Donc, évidemment, au début, ce sera déficitaire, mais on est dans une entreprise qu'il est difficile de comparer parce que elle inclut absolument tout. Et c'était le rêve, hein, de Elon Musk de dire, on aura un peu des réseaux sociaux, on aura de l'intelligence artificielle, on aura des data centers dans l'espace. Et on aura tout ça qui sera vraiment et véritablement sous une marque, c'est SpaceX. Donc, effectivement, alors sur le court terme, on est au courant que ça perd de l'argent, donc c'est pas une surprise. Mais sur le long terme, je suis pas persuadé qu'il faille aller à l'encontre d'Elon Musk.
Antoine, souvenez-vous Tesla. Tesla, pendant la majeure partie de son histoire, a fait des bénéfices un petit peu par accident. Ça n'a pas empêché que c'est devenu une boîte super profitable de manière générale. En 10 ans, elle a gagné 2800% en bourse. Donc oui, il y a un petit côté modèle spécifique Elon Musk, on va dire, mais on investit sur l'avenir d'une manière générale.
Et sur Elon Musk, parce que les actionnaires doivent le savoir, Elon Musk sera tout puissant, il est déjà dans SpaceX, il sera même l'un des très rares, voire le seul grand patron de Wall Street, irrévocable par les actionnaires, John.
Ouais, clairement. Mais je répète, c'est quelque chose qui est pas caché. Ça va lui donner. Il va y avoir une classe, ce qu'on appelle une classe B, qui donne jusqu'à 10 droits de vote par action spéciale. Donc on le sait, Musk va vraiment pouvoir imposer seul les grandes décisions stratégiques, les nominations au conseil d'administration et l'orientation du groupe pendant de nombreuses années. Bon. Mais donc, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on va acheter l'action en bourse, eh bien, c'est quelque chose que l'on sait. On va faire confiance d'une certaine manière à l'entreprise, mais surtout à un homme. Donc évidemment, si Elon Musk, à un moment, ce n'est pas du tout le cas, mais devait démissionner de son poste, eh bien, potentiellement, ici, eh bien, ce serait une autre histoire. Donc c'est vraiment un ego ou quelque chose qui entoure vraiment un homme qui a une vision, comme on l'a dit, à 360°.
SpaceX à suivre donc sans doute à partir de mi-juin en bourse, mais à l'automne suivra OpenAI. On a de plus en plus d'infos, même des infos de plus en plus précises sur l'intro en bourse à venir d'OpenAI. Alors comme par hasard, ces infos sortent au moment où SpaceX dépose son dossier. C'est peut-être une façon pour OpenAI de faire savoir aux investisseurs qu'il ne faudrait pas tout mettre dans SpaceX parce que ce sera eux les suivants. Qu'est-ce qu'on sait de cette intro à venir d'OpenAI ?
Alors normalement, elle arriverait en automne. Alors on a rarement des dates précises. Alors ce qu'on sait, c'est que vous savez qu'il y avait un procès entre Elon Musk, on y revient, et puis le patron d'OpenAI, et les investisseurs aujourd'hui considèrent que les incertitudes juridiques sont plus ou moins levées, donc on peut aller à l'IPO. Alors on estime une valorisation comprise entre 300 et 500 milliards de dollars. Vous allez me dire, c'est peu par rapport à SpaceX, mais c'est absolument énorme. C'est une des plus grandes introductions en bourse de l'histoire de Wall Street. Et puis, évidemment, les marchés regardent surtout la croissance totalement explosive de revenus liés à ChatGPT et aux agents professionnels de l'intelligence artificielle. Donc, évidemment, la question est Et puis, c'est peut-être le sujet principal, c'est la structure de gouvernance. Vous avez beaucoup d'investisseurs qui veulent savoir si Sam Altman conservera un contrôle proche de celui d'Elon Musk avec ce qui s'est passé dans SpaceX dont on vient de parler. Et donc, il y a de nombreuses zones d'ombre, mais effectivement, deuxième société, on attend Anthropic, les dates approximatives, mais effectivement, cette année, il faut parier sur SpaceX, OpenAI et Anthropic.
Dans l'IA, en tout cas, les licenciements continuent. On a eu des annonces de Meta, celle d'Intuit aussi. Intuit, le titre est en repli de 20% en ce moment à Wall Street. Intuit qui compte supprimer une partie de ses effectifs pour investir davantage dans l'IA. Wall Street a ouvert il y a maintenant 13 minutes, John. Et l'énergie, c'est l'autre grand défi. On apprend que les nouvelles installations de stockage d'énergie aux États-Unis atteignent un record au premier trimestre.
Un record historique avec 9,7 gigawattheures de nouvelles capacités installées. Alors, pour être très précis, c'est une hausse de 32% sur un an. Donc, ça confirme clairement que le stockage électrique devient progressivement l'un des piliers stratégiques de la transition énergétique, mais aussi de la révolution de l'intelligence artificielle. On en parle très souvent ensemble. Les demandes explosent principalement à cause des tensions sur les data centers. Et donc, effectivement, ici, on voit qu'il ne faut pas simplement, si vous voulez parier, si vous voulez investir sur l'intelligence artificielle, il ne faut pas simplement aller sur les puces, il ne faut pas aller sur le cloud, il faut aller sur toute une infrastructure dont on parlait hier, et elle passe évidemment par l'énergie. C'est confirmé par l'Agence de l'énergie internationale avec ses nouvelles structures qui sont beaucoup plus grandes aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup plus de demandes.
Merci beaucoup, John, avec nous régulièrement. John Plassard, Cité Gestion.